Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours.
Chapitre 12. Où Phileas Fogg et ses compagnons s'aventurent à travers les forêts de l'Inde et ce qui s'ensuit. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu'au cou dans leur cacolet, étaient fort secoués par le trot raide de l'éléphant auquel son mahout imprimait une allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant par ailleurs et se voyant à peine l'un l'autre.
Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis au coup et au contre-coup, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle eût été coupée net. On descendit les dernières rampes des Vindias. Cuny avait repris son allure rapide. Vers midi, le guide tourna à la bourgade de Callenger, située sur le Cani, un des sous-affluents du Gange.
Il préférait voyager ainsi à l'abri des bois. En tout cas, il n'avait fait jusqu'alors aucune rencontre fâcheuse, et le voyage semblait devoir s'accomplir sans accident, quand l'éléphant, donnant quelques signes d'inquiétude, s'arrêta soudain. Il était 4 heures alors.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Sir Francis Cromarty, qui releva la tête au-dessus de son cacolet. « Je ne sais, mon officier, » répondit le Parsi, en prêtant l'oreille à un murmure confus qui passait sous l'épaisse ramure. Quelques instants après, ce murmure devint plus définissable. On eût dit un concert, encore éloigné, de voix humaines et d'instruments de cuivre.
Passepartout était tout yeux, tout oreille. Mr. Fogg attendait patiemment, sans prononcer une parole.
Le Parsi sauta à terre, attacha l'éléphant à un arbre et s'enfonça au plus épais du taillis. Quelques minutes plus tard, il revint, disant « Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. »
Le bruit discordant des voix et des instruments se rapprochait. Des chants monotones se mêlaient au son des tambours et des cymbales. Bientôt, la tête de la procession apparut sous les arbres, à une cinquantaine de pas du poste occupé par Mr. Fogg et ses compagnons. Il distinguait aisément à travers les branches le curieux personnel de cette cérémonie religieuse.
En première ligne s'avançaient des prêtres coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. Ils étaient entourés d'hommes, de femmes, d'enfants qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tam et de cymbales. Derrière eux, sur un char aux larges roues, dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, apparut une statue hideuse, traînée par deux couples de zébus richement caparaçonnés.
Cette statue avait 4 bras, le corps coloré d'un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné et de bétel. À son cou s'enroulait un collet de tête de mort, à ses flancs, une ceinture de mains coupées. Elle se tenait debout sur un géant terrassé auquel le chef manquait. Sir Francis Cromarty reconnut cette statue.
« La déesse Kali, murmura-t-il, la déesse de l'amour et de la mort. »« De la mort, j'y consens, mais de l'amour, jamais, » dit Passepartout. « La vilaine bonne femme. » Le Parsi lui fit signe de se taire. Autour de la statue s'agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs zébrés de bandes d'ocre, couverts d'incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte. Énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies hindoues, se précipitent encore sous les roues du char de Jackernaut.
Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient une femme qui se soutenait à peine. Cette femme était jeune, blanche, comme une européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d'or, recouverte d'une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille. Derrière cette jeune femme, contraste violent pour les yeux, des gardes, armés de sabres nus passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés, portaient un cadavre sur un palanquin.
C'était le corps d'un vieillard, revêtu de ses opulents habits de Raja, ayant, comme en sa vie, le turban brodé de perles, la robe tissée de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamantée et ses magnifiques armes de prince indien. Puis des musiciens et une arrière-garde de fanatiques, dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments, fermaient le cortège. Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d'un air singulièrement attristé et se tournant vers le guide. « Un suti » dit-il.
Le Parsi fit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. La longue procession se déroula lentement sous les arbres et bientôt ses derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt. Peu à peu, les chants s'éteignirent. Il y eut encore quelques éclats de cris lointains et enfin, à tout ce tumulte, succéda un profond silence. Phileas Fogg avait entendu ce mot, prononcé par Sir Francis Cromarty, et aussitôt que la procession eut disparu, « Qu'est-ce qu'un suti ? » demanda-t-il.
« Un suti, monsieur Fogg, répondit le brigadier général, c'est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. Cette femme, que vous venez de voir, sera brûlée demain, aux premières heures du jour. »« Ah, les gueux !» s'écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d'indignation. « Et ce cadavre ?» demanda monsieur Fogg. « C'est celui du prince, son mari, » répondit le guide, « un Raja indépendant du Buldenkund. » Comment ? » reprit Phileas Fogg sans émotion. « Ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde et les Anglais n'ont pu les détruire. »
« Dans la plus grande partie de l'Inde, » répondit Sir Francis Cromarty, « ces sacrifices ne s'accomplissent plus. Mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages et principalement sur ce territoire de Buldenkund. Tout le revers septentrional des Vindhya est le théâtre de meurtres et de pillages incessants.
« La malheureuse !» murmurait Passepartout. « Brûlée vive !»«
Oui !»
reprit le brigadier général. « Brûlée. Et si elle ne l'était pas, vous ne sauriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. On lui raserait les cheveux. On la nourrirait à peine de quelques poignées de riz. On la repousserait. Elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelques coins comme un chien galeux. »
Cependant, cette infortunée ne paraissait faire aucune résistance, fit observer Sir Francis Cromarty. « Cela tient à ce qu'on l'a enivrée de la fumée du chanvre et de l'opium. Mais où la conduit-on ? À la pagode de Pillaji, à 2000 d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. Le sacrifice aura lieu
demain à la première apparition du jour. » Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épée fourrée et se hissa sur le cou de l'animal. Mais au moment où il allait l'exciter par un sifflement particulier, Mr. Fogg l'arrêta et, s'adressant à Sir Francis Cromarty, « Si nous sauvions cette femme, » dit-il. « Sauver cette femme, Mr. Fogg ?» s'écria le brigadier général. Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épais fourré et se hissa sur le cou de l'animal.
« J'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. »« Tiens, mais vous êtes un homme de cœur, » dit Sir Francis Cromarty. « Quelquefois, » répondit simplement Phileas Fogg, « quand j'ai le temps. » Chapitre 13, dans lequel Passepartout prouve une fois de plus que la fortune sourit aux audacieux. Cependant, Passepartout, juché sur les premières branches d'un arbre, ruminait une idée qui avait d'abord traversé son esprit comme un éclair et qui finit par s'incruster dans son cerveau. Il avait commencé par se dire « Quelle folie !» et maintenant il répétait « Pourquoi pas ? Après tout, c'est une chance, peut-être la seule, et avec de tels abrutis. »
En tout cas, Passepartout ne formula pas autrement sa pensée. Mais il ne tarda pas à se glisser avec la souplesse d'un serpent sur les basses branches de l'arbre, dont l'extrémité se courbait vers le sol. Les heures s'écoulaient, et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l'approche du jour. Cependant, l'obscurité était profonde encore. C'était le moment. Il se fit comme une résurrection dans cette foule assoupie. Les groupes s'animèrent.
Des coups de tam-tam retentirent. Chants et cris éclatèrent de nouveau. L'heure était venue à laquelle l'infortuné allait mourir. En effet, les portes de la pagode s'ouvrirent. Une lumière plus vive s'échappa de l'intérieur. Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime, vivement éclairée, que deux prêtres traînaient au dehors.
Il leur sembla même que, secouant l'engourdissement
de l'ivresse par un suprême instinct de conservation, la malheureuse tentait d'échapper à ses bourreaux. Le cœur de Sir Francis Cromarty bondit et par un mouvement convulsif, saisissant la main de Phileas Fogg, il sentit que cette main tenait un couteau ouvert.
En ce moment, la foule s'ébranla. La jeune femme était retombée dans cette torpeur provoquée par les fumées du chanvre. Elle passa à travers les fakirs qui l'escortaient de leurs vociférations religieuses. Phileas Fogg et ses compagnons, se mêlant au dernier rang de la foule, la suivirent.
Deux minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s'arrêtaient à moins de 50 pas du bûcher sur lequel était couché le corps du Raja. Dans la demi-obscurité, ils virent la victime, absolument inerte, étendue auprès du cadavre de son époux. Puis une torche fut approchée et le bois imprégné d'huile s'enflamma aussitôt. À ce moment, Sir Francis Cromarty et le guide retinrent Phileas Fogg qui, dans un moment de folie généreuse, s'élançait vers le bûcher.
Mais Phileas Fogg les avait déjà repoussés. Quand la scène changea soudain, un cri de terreur s'éleva. Toute cette foule se précipita à terre, épouvantée. Le vieux Raja n'était donc pas mort. Quand le vieux se redressa tout à coup, comme un fantôme, s'élevait la jeune femme dans ses bras, descendre du bûcher au milieu des tourbillons de vapeur qui lui donnaient une apparence spectrale.
Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d'une terreur subite, étaient là, face à terre, n'osant lever les yeux et regarder un tel prodige. La victime inanimée passa entre les bras vigoureux qui la portaient et sans qu'elle parût leur peser. Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le Parsi avait courbé la tête et Passepartout, sans doute, n'était pas moins stupéfié.
Se ressusciter arriva ainsi près de l'endroit où se tenaient Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty. Et là, d'une voix brève, « Filons !» dit-il. C'était Passepartout lui-même qui s'était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée épaisse. C'était Passepartout qui, profitant de l'obscurité profonde encore, avait arraché la jeune femme à la mort. C'était Passepartout qui, jouant son rôle avec un audacieux bonheur, passé au milieu de l'épouvante générale.
Un instant après, tous quatre disparaissaient dans le bois et l'éléphant les emportait d'un trot rapide. Mais des cris, des clameurs et même une balle perçant le chapeau de Phileas Fogg leur apprirent que la ruse était découverte. En effet, sur le bûcher enflammé se détachait alors le corps du vieux Raja. Les prêtres, revenus de leur frayeur, avaient compris qu'un enlèvement venait de s'accomplir.
Aussitôt, ils s'étaient précipités dans la forêt. Les gardes les avaient suivis. Une décharge avait eu lieu, mais les ravisseurs fuyaient rapidement et en quelques instants, ils se trouvaient hors de la portée des balles et des flèches.
D'après Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, texte abrégé, le livre de poche Jeunesse.